Du 23 au 26 juillet 2009, l'Afrique s'invite dans le Lot pour la 11e édition de Africa Jark. Au programme de ces 4 jours de fête, de la musique, de la danse, des contes, des expos, de la littérature, du cinéma, du théâtre et des stages. Plus précisément, le jeudi 23, soirée d'ouverture, nuit blanche, humour noir. Le vendredi 24, Kadi Diarra, les Boukaks et Salif Keita. Et le samedi 25, le légendaire Alpha Blondy. Plus de renseignements pour les réservations au 05 65 40 29 86 et l'email festival@africajark.com. Et le programme complet de l'édition 2009 sur www.africajark.com.
Je me disais, ça sentait un peu l'été là. Ce petit parfum.
Africa Jark.
Attends, j'ai tout ça dans les dongles.
En partenariat avec Radio FMR.
Bon, on y va.
Allez, c'est parti.
Allez, et ben bonjour et bienvenue. Donc vous écoutez
FFFMR.
On peut jouer avec les jingles en direct, quoi. Merde.
Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Non! Non, pas de JB cette semaine, excusez.
Que 3.
Voilà, du sport devrait arriver d'ici tout à l'heure. Il faudrait que je te donne un cours de jingle d'ouverture, un de ces quatre, sur comment c'est fait.
Tu sais, si je réalise toujours pas mon émission, ça sert à rien. Hein.
Ouais. Non, mais c'est vrai, Bill Bailey avec un orchestre philharmonique le fait 100 fois mieux que moi. Un festival a lieu le week-end prochain. C'est pas un festival, c'est une fête de la bande dessinée. C'est quelque chose que je suis depuis que je me suis lancé à faire une émission de radio, parce que voilà, ils ont un programme plutôt sympathique, ils le font sans réelle prétention, vraiment pour le plaisir, et ils le font plutôt bien. Et tu y es déjà allé, toi?
Ayoz?
Ouais.
Je ne pense pas.
Alors c'est dans le Gers. Alors vous pouvez pas vous tromper, bande d'obsédés. C'est entre Circuit Paul Ricard et Condon.
Ouais.
Voilà. c'est environ 120 km de Toulouse. C'est monté par des bénévoles et aussi par le fait qu'il y a pas mal d'auteurs belges qui vivent dans le sud de la France. Donc c'est un petit avantage, hein, je veux dire. Mais en même temps, ça leur permet d'avoir des auteurs, trucs comme ça. Ils se disent, c'est très simple, la capitale l'Armagnac. On les fait venir. On les fait boire 2-3 jours avant. Alors vous les reconnaissez de suite, les Belges, ils sont rouges.
Et c'est le soleil, c'est pas l'alcool, c'est, ça.
Non, à boire avec modération, bien sûr. Et ils font venir des auteurs. C'est accessible de 10h à 19h à peu près, sans entrée payante. Il suffit de faire la queue. Il faut en profiter parce que les auteurs sont là. On peut discuter avec eux. Ils sont plutôt sympas. Ils sont plutôt d'un abord facile. C'est là où on a eu, c'est là où j'ai eu, pardon, en interview Tom et Jean-Ry, plein de dessinateurs, d'une manière beaucoup plus détendue que ce que peut être des foires comme Angoulême ou Colomiers.
C'est l'industrie.
Non, Angoulême,
ouais,
est un festival. Colomiers est une foire. Là, c'est une fête de la bande dessinée. Au départ, c'est une fête de la bande dessinée et de la musique. Et puis voilà, la musique finalement, c'est pas fait. Ils ont eu des petits soucis avec la mairie, ils s'entendaient plutôt mal, bon, petite rivalité, querelle de clocher, je veux dire. Pourtant, chaque année, ils font un programme qui est intéressant. Il y a une trentaine d'auteurs, ils sont fixés une limite, 30 pas plus, ça n'a aucun intérêt au-delà. Et il y a des gens plutôt intéressants qui y vont. Alors cette année, on y retrouve comme d'habitude les locaux, c'est-à-dire ceux qui habitent dans le coin. Joël Azara, qui fait partie de l'organisation, tout comme Serge Ernst, qui fait la BD Les Zappeurs.
C'est dommage, du sport n'est pas là pour dire takatakata.
Tout à l'heure, on lui fera. HD, Serge Goulesque, qui lui vit à Toulouse, Hugues Labiano aussi. Roger Widem-Locher, qui habite dans le coin. Il y a Tito, qui fait Tendre Banlieue. Parmi les auteurs aussi, il y a Olivier Boiscommun, qui fait... Enfin bon, il a une multitude de séries d'excellente qualité et d'excellente facture. Eric Corbeyran, Cusor, Christian Darras, Jean-Claude Denis, ça c'est une petite surprise tout à l'heure. Marianne Duvivier qui fait la bande dessinée plutôt jeunesse. Jean-Jacques Dialowski, Franck Giroux qui est un scénariste qu'on ne présente plus. Serge Boulesque lui aussi fait de la jeunesse, notamment chez Milan. Bénédicte Gourdan, Virginie Grenet, Haussmann, Hullet, Jean-Charles Crin, Fabrice Lebeau, Maester, s'il vous plaît, Laurent Noblet, Richer, Lucien Roulin et plein d'autres. En sachant que le samedi soir, la veille, il y a un groupe de musique cubaine, ça c'est la partie fête de la musique entre guillemets, et le repas est ouvert au public, à condition de réserver, je vais dire, auprès de l'office du tourisme. Le prix du repas est de 20 euros, mais voilà, ce sera plutôt dansant, plutôt festif. Je vais pas dire que c'est un peu la fête de village manière Astérix, mais c'est pas loin, c'est l'idée justement.
Il y a pas de bagarre, donc c'est pas Astérix.
Y a rarement des bagarres lors du grand festin.
Ah, le grand festin, non.
Non, en général, on hésite. On fait pas des fois venir César. Bon, c'est vrai qu'il y a le barde qu'on baillonne. Bah là, ils ont des barbes de qualité, voilà. La 18e fête de la bande dessinée, c'est le dimanche 2 août. Donc le week-end prochain, de 10h à 19h. Petite recommandation personnelle vraiment de notre part, parce que voilà, c'est pas très couru, c'est pas très connu, alors que vraiment il y a des auteurs de qualité, ils sont accessibles et il y a de tout, hein. Il y a de la bande dessinée, je veux dire la bande dessinée franco-belge de qualité, il y a du fanzina, de la bande dessinée d'auteur, de la bande dessinée jeunesse, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Voilà. Et plus d'informations sur le site eosbde.com. Merde, j'ai oublié de foutre en les liens sur le site Supplément Week-end. Et, ou sinon sur opalbd.com qui fait le listing de tous les festivals dont ils ont connaissance, avec le listing des auteurs et de leurs œuvres. Donc vous allez sur eosbd.com pour avoir plus d'informations, si vous voulez en savoir plus. Voir, il y a un camping qui est pas mal, avec une piscine, il y a de belles randonnées à faire, il y a aussi les caves des producteurs du coin, bon, le musée de Condon, ça c'est un grand classique, je crois en plus qu'ils ouvrent maintenant le week-end au public le circuit Paul Ricard, ça peut être une occasion, si vous avez envie de faire rugir votre Fiat Uno. J'avais oublié de rééquilibrer, je trouvais ma voix plutôt bizarre et sèche. Voilà, c'est un petit peu mieux rééquilibré. J'ai vu le Sylvain hier d'ailleurs, il a dit « Ah, qu'est-ce que tu penses du nouveau studio et tout ?» Bah ouais, c'est super, c'est génial. Mais l'écran plat là, vu comment c'est, un écran plat ça se pète beaucoup plus facilement qu'un tube. Si jamais il y a un CD qui vole ou quoi que ce soit...
Bah il suffit de pas être au speed pendant un direct, c'est tout.
Tu dis ça à moi ?
Oui.
Bon, d'accord. T'as pas plutôt de la BD ?
Si, j'ai une petite BD aujourd'hui. Au
petite
niveau
BD
du...
d'auteur auto-édité. Ouais.
au niveau du nombre de pages et du format surtout. Donc il s'agit de Dofus Monster, tome 4 par Neyef. Ce tome-là s'appelle Firefox, édité chez Ankama.
Fire quoi ?
Firefox.
3.5 alors.
Oui. Ah,
oh, yes ! Je l'ai placé !
C'est bien, tu as noté la référence. Donc il faut savoir que c'est inspiré du jeu Dofus. Chaque monstre en fait est un, enfin pas tous mais beaucoup en tout cas sont inspirés d'un jeu de mots hein, puisque voilà. Donc en fait les Dofus Monsters c'est le premier donc qui soit un jeu de mots puisque les précédents c'était il y avait le Shenmue, il y avait le dragon cochon et le chevalier noir. Donc là il s'agit de Firefox. Alors qu'est-ce qu'un Firefox? Donc c'est un petit renard qui sont pas loin d'être des crétins finis. Alors que le village de Feudala s'apprête à élire son nouveau chef, le maire actuel est persuadé que son gentil fils Bob veut le tuer. De manipulation en manipulation, il parvient à convaincre son fils aîné Boris, aux méthodes assez brutales, hein, et en concurrence directe avec Bob pour le poste de futur chef, de se débarrasser de son frère. Ce dernier, laissé pour mort, est recueilli par le fantôme Lenal, puisqu'il a un défaut de prononciation, il met des L à la place des R, qui, désireux de se venger du chef de Feudala, va lui enseigner son art du combat. Donc vous voyez, c'est une BD sur la manipulation, mais les manipulations, elles volent pas très haut, et puis c'est quand même des crétins, alors ils sont vachement faciles à manipuler quand même.
Dofus Monster aussi est plutôt un public collégien. Oui. Donc.
Oui, et puis les tomes sont assez légers, le parti pris c'est que chaque
léger,
tome...
C'est un beau manga hein.
Oui, un manga à la française.
Voilà.
Donc.
192
Comment
192 pages.
Je sais pas. Ouais.
Gagné.
Donc chaque tome est l'occasion de revenir sur un monstre en particulier. Le premier avait fait sensation pour ma part puisque j'avais bien aimé le Shenmue. C'était une histoire assez touchante d'une petite fille qui devenait adolescente au fur et à mesure que.
J'espère que Alix, message perso pour toi. J'espère que t'en as envoyé un tome à Tristan Nito. Ça lui fera plaisir.
D'accord.
Le patron de Mozilla, donc de la promotion de Firefox en Europe.
D'accord. Et donc voilà, c'est l'occasion de venir après sur une nouvelle tribu, donc la tribu des Firefox.
Graphiquement, c'est pas mal.
Mais voilà, c'est voilà. Ça. C'est le graphisme est surprenant. Il a de la force. Il est hachuré, anguleux.
Il a une réelle expressivité. Il y a de la dynamique. Il est assez spontané.
Voilà, il est pas fermé du tout et il est assez costaud.
On ressent le côté speed et le côté enlever l'histoire. C'est vraiment agréable quoi de ce côté-là.
Tout à fait. Donc le ce tome-là est centré vachement sur l'ambiance yokai puisque c'est un village de la forêt, donc il y a des fantômes, la forêt regorge d'esprits, il y a des créatures renards, donc ça, tout le mythe autour du tanuki, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Bon, ça se lit très très vite, hein, l'histoire, vraiment c'est crétinoïde au possible, mais pas crétin, on vous prend pour des cons, c'est crétin parce que c'est le parti pris, c'est que les personnages en question sont manipulables et sont pas très intelligents en fait, donc c'est ça qui est rigolo. Ils font des têtes pas possibles parce qu'ils font des tronches. Ah, mais j'étais jamais rien fait, t'as été manipulé, non, ne me tape pas et tout. Le contraste entre le petit frère qui est très apprécié de tous et qui est tout gentil par rapport à la grosse brute qui est son frère aîné, qui ne jure que par les poings et tout, qui dit ouais, vous jouez à la marelle, j'en ai rien à foutre que ça développe les réflexes et l'habilité, moi je veux que vous tabassiez des chaînes, allez, je vous donne un grand coup de pied dans la face et puis vous volez à la Team Rocket dans un Pokémon, voilà. Voilà, bon, c'est rigolo, c'est débile, c'est assumé, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé le dessin. Bon, c'est pas une BD qui reste dans les annales, mais
ça me fait un peu penser à Kung Fu Panda. Oui. C'est pas un hasard parce que tu sais ce que c'est le véritable animal Firefox. Tu sais ce que c'est. C'est le panda roux de Chine. Hein, donc, je trouve que c'est assez rigolo.
D'accord. Donc, c'est une BD de Neyef, Dofus Monster, donc le tome 4. Firefox, donc par définition, il n'est pas utile d'avoir vu les précédents puisque chaque tome est indépendant. Voilà, c'est édité chez Ankama.
Alors moi de mon côté j'ai de la mangas.
Ouais.
Alors dans les mangas c'est vrai qu'il y a de la manga qu'on considère un peu d'auteur, de la nouvelle manga aussi qui a été initiée par un petit français. Et mais les mangas, et ça on en a plusieurs fois parlé dans cette émission, il y a énormément de genres. Des genres qui s'adressent à des publics particuliers. Alors évidemment le type de manga qui a vraiment été la déferlante en France, c'est la manga pour adolescentes. Et adolescent, je veux dire, c'est-à-dire tout ce qui est shoujo, shonen, en général, un manga pour, on y retrouve certains termes de vie quotidienne, notamment, évidemment, en général, dans ce cas-là, celui du travail, c'est-à-dire pour un ado, son lycée. Donc alors, la vie quotidienne d'un ado japonais dans son lycée, racontée dans un manga, j'en ai compulsé des centaines de séries de ce genre, et j'en ai déduit deux angles possibles. Alors il y a le côté, oui c'est la vie de tous les jours, mais heureusement j'ai un appartement pour moi tout seul et parce que mes parents sont milliardaires et les profs, et ben c'est les troisièmes rôles de mon histoire. Bon, ça c'est comme dans la série Five par exemple de Shiori Furukawa, c'est dans la collection Shoujo chez Kana.
C'est tout?
Ouais ben j'ai raconté.
D'accord, bon ça c'est fait, mais je le note.
Et à côté, okay, il y a le côté incompris de ses parents, blessés dans le monde des adultes et dont le seul lien ténu qu'ils en ont, ben, ce sont les profs, dont ils ne comprennent pas franchement l'intérêt des cours. Akiko Monden, professeur Eiji, vient de sortir dans la collection Big Kana chez Kana, les tomes 1 et 2. C'est l'histoire d'un jeune professeur, Eiji Fuwa, qui a été embauché à titre temporaire pour enseigner l'anglais dans un lycée. Un lycée aux méthodes de gestion, je veux dire, étonnantes, puisque le proviseur est un ancien cadre de l'industrie qui a instauré un système de notation des professeurs par les élèves. Alors, l'idée de base est louable, c'est une idée de performance, surtout qu'au Japon, tout est rythmé par des concours, pas des concours sanctionnants comme le BEPC ou le bac, mais plutôt les concours d'entrée dans les universités. Donc forcément, les élèves sont motivés à aller passer ces concours. Mais malheureusement, la méthode a entraîné un excès. Les élèves se croient tout permis puisqu'ils peuvent rétrograder leur prof. Eiji se demande un peu où c'est qu'il est tombé et surtout, comme lui, prof intérimaire, comment lui va pouvoir intéresser des lycéens au comportement plus qu'aberrant. Surtout que lui, il est prof d'anglais, mais l'idée c'est pas franchement de suivre les manuels, mais plutôt de donner de la conversation, de donner une manière d'arriver aux élèves, ben, je veux dire, de se dépatouiller quand ils sont face à des vrais anglophones. Ou presque. Des remarques sur ses performances attendues, une fille jalouse qui veut être sa femme, une tentative de meurtre. Bien, c'est plutôt explosif. Sauf que si Eiji Fuwa est un peu nouveau dans le monde de l'éducation, il n'a pas été choisi au hasard par le proviseur. C'est un ancien journaliste qui a travaillé dans les zones de conflit de ce début de millénaire. Il vit avec son cousin, à qui il doit la vie, parce qu'en contrepartie, son cousin est devenu paraplégique. Bref, c'est quelqu'un qui n'est pas un fonctionnaire établi dans un plan de carrière et qui, en plus, a été à 1000 bornes du cocon de l'établissement scolaire. Il a été pourchassé par des milices, il a réchappé à un attentat à une voiture piégée, c'est là où son cousin a perdu ses jambes. Alors, une tentative de meurtre par des ados en mal-être. Et puis, il y a les rumeurs. Le professeur Mitsukora, par exemple, qui, le soir, cherche les filles de l'âge de ses élèves pour sortir avec. Tanaka qui serait grosse parce qu'elle refuse de faire du sport, parce qu'elle serait malade soi-disant. Les ados sont d'autant plus cruels dans leurs rumeurs qu'ils en rajoutent souvent. Graphiquement, pas de grande originalité. Les profs sont de beaux garçons, les filles sont coquettes, certaines sont des boulimiques angoissées, les garçons sont soit fins, soit baraqués, mais toujours impeccablement habillés, avec beaucoup de style, etc., pas forcément avec l'uniforme de l'école. Le dessin est d'une facture maîtrisée, même si la dessinatrice a un sérieux tic, c'est-à-dire elle a plutôt tendance à faire beaucoup de regards de trois quarts en coin.
Je suis mystérieux.
Voilà. Ce qui est nettement plus intéressant, c'est qu'on a des personnages entiers qui ont déjà un passé riche, une motivation, des angoisses, et donc peuvent gaffer vis-à-vis des autres. Mais c'est surtout le passé de baroudeur du prof Fuwa qui est intéressant dans ce shoujo scolaire. Il donne un décalage fort à ce genre de série en le raccrochant à une réalité internationale. Bref, c'est plutôt une série que je vous recommande, je veux dire, justement parce qu'il est très différent des séries du genre, je veux dire, pour adolescentes, qui se passent dans un lycée. C'est chez Big Kana, ce qui se veut être un propos, je veux dire, un petit peu plus mature que la plupart. Ce qui veut pas dire qu'il y a scène de cul, etc. Non, ça veut dire juste que, ben voilà, l'histoire n'est pas linéaire. C'est chez Big Kana, donc chez Kana, l'auteur, avec un mot final, Akiko Monden, réalise donc cette série qui s'appelle Professeur Eiji. C'est les tomes 1 et 2 qui sont arrivés début juin.
Et on voit bien que c'est dessiné, c'est fait par une dessinatrice et plutôt pour un public féminin, parce qu'on voit bien les trames de dégradés blanc et gris derrière, genre je suis isolé du fond, parce que c'est pour éprouver la richesse du personnage qui regarde en coin et tout. Non mais c'est rigolo parce qu'on voit vraiment la différence de traitement par rapport à GTO par exemple, Great Teacher Onizuka, où c'était le gars qui a le prof qui a un ancien passé de Yakuza, enfin il était appartenait à des bandes et tout, bien délire. Là c'est plus posé, on va dire, hein. C'est voilà, c'est tu lis là ce manga avec une tasse de thé à côté, c'est, oui c'est sophistiqué et tout.
Oui c'est vrai, il faut arriver à rentrer dans le rythme, mais après franchement je me suis dit bon allez je vais faire Five après parce que je sens que ça va me décevoir, et effectivement ça a pas loupé. Five avec ouais, alors donc on a un concours de PS et il faut faire des cours de, c'est qu'il faut ramener un plat d'un restaurant très précis sur l'archipel. Ah ouais mais c'est trop facile parce que moi mon papa il tient une boîte d'hélicoptère et tout.
Ah. Ouais mais là il y a
Deus Ex Machina, me voici. Je suis Zeus et j'arrive pendu par un fil.
Généralement ce type de scénario est généralement sauvé par du cul, mais là c'est pas un manga de cul donc bon.
Ah non, ça, mais je me suis dit au bout d'un moment, allez, ça va tourner au yaoi, un truc comme ça, surtout qu'ils sont très beaux, il vit avec son frère et tout.
Oui, donc on explique le yaoi, c'est plutôt entre mecs hein.
Voilà, et non justement, ça ne cède pas cette facilité là, c'est ça qui est agréable. Là-dessus, je me suis dit, ouais, non, là, je suis content. J'ai pas perdu 30 minutes. Voilà.
30 minutes. Oui, un manga en 30 minutes?
Non, c'est parce que chaque fois que je passe du temps sur YouTube, des fois, je tombe sur les vidéos et le premier commentaire, c'est rendez-moi les 40 secondes de ma vie.
Ah, d'accord.
Voilà.
Excellent.
Donc, c'est, ouais, non, voilà, quoi, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Après, si, vous avez une ado qui est très fleur bleue et tout, allez-y, Five, Shiori, Furukawa, dans la collection Shoujo chez le même éditeur, ça devrait aller. Et voilà.
Ah, je veux bien tester, on va voir.
Tu veux tester
Genre, ouais, je vais lire ça, ouais.
Bon, d'accord, on verra. Oui, Duce ? Pardon.
Micro en plus, alors.
Non, excuse-moi, parce que je l'avais baissé. Voilà, le temps que tu te mettes en place et tout le reste. Tu peux redresser d'ailleurs le truc de douche.
Non, mais il a pas l'air de vouloir tenir.
Ah. Mais si. Bien excité, un micro, ça se tient droit. Vous écoutez FMR, il n'y a pas de doute, 12h22.
J'ai failli la faire aussi, mais...
Je vais vous proposer autre chose avec une bande dessinée franco-belge de Marc Bourgne au scénario et Voro au dessin. L'été 63. Compte que je suis pas sûr de pouvoir passer un fond sonore après. Un peu con, hein. Désolé, on est en direct. L'été 63 donc est un album en deux tomes qui est sorti chez Vent d'Ouest. L'été 63, c'est encore un été d'insouciance, je veux dire, pour la jeunesse d'après-guerre française. La France, en moins de 10 ans, a perdu quasiment toutes ses colonies, que ce soit l'Afrique équatoriale, l'Afrique occidentale, l'Indochine et l'Algérie et le Maroc.
Enfin, le Maroc, ça faisait quand même déjà plus d'une dizaine d'années, quoi.
Oui, c'est vrai, pardon.
Mine de rien, quoi. L'Indo, c'est pareil.
Mais. Donc. Oups, erreur de ma part, voilà. Hop. Les soubresauts de la guerre d'Indochine, justement, ça dégénère en intervention des États-Unis au Vietnam. puisque le gouvernement militaire a du mal face à une guérilla communiste qui devient de plus en plus en plus en plus présente, tandis qu'on solde tristement la guerre d'Algérie. Mais avant le service militaire, cette jeunesse qui va monter sur, qui va monter des barricades dans 5 ans se pâme pour l'instant sur les Johnny et autres yéyés français. Bon, certains snobs connaissent déjà les Beatles, voire les Rolling Stones.
Là, je suis dubitatif parce que le premier Stones sort quand même en 64, donc les gens qui connaissaient les Stones en 63, c'était pas seulement des snobs, mais vraiment des gens très bien introduits.
Et justement, c'est ce qu'ils racontent. Tu le diras. Jeannot est un lycéen qui a la chance de vivre à Paris et d'avoir un correspondant anglais, si tu veux savoir. Donc c'est comme ça qu'il connaît. Orphelin de mère, un père, Paul, aimé mais absent, car c'est médecin militaire pour la marine qui lui et Paul donc paie l'appartement parisien de Jeannot. Arrivée de l'été veut dire grandes vacances, mais aussi permission de son père et vacances en famille en Auvergne. Jeannot s'en fait une joie, sauf que le soir de son arrivée, son père lui raconte qu'il a été médecin militaire pendant les campagnes d'Indochine. Et alors qu'il était jeune veuf, il y a connu une femme. Le garçon découvre avec amertume que son père lui a caché qu'il a une demi-sœur, et que sa grand-mère aussi était au courant. Et comme la situation empire au Vietnam, au point que les villageois sont aussi bien menacés par les militaires que par les Vietcong, Lin a donc été rapatrié en catastrophe. C'est donc le jour suivant qu'il a appris la nouvelle qu'arrive sa demi-sœur. Et Jeannot supporte très mal la situation. Déraciné, inquiète pour sa mère, en butte avec l'hostilité de son demi-frère, comment Lynn va-t-elle vivre ses nouvelles attaches? Alors c'est un premier album, en couleur directe, crayon et aquarelle, qui montre déjà une excellente maîtrise du média par Voro. Même si on a encore quelques petites faiblesses au niveau des visages, on a droit à un très beau travail sur les décors et la documentation, mais aussi une incroyable expressivité des émotions. L'histoire est avant tout un drame sentimental avec en toile de fond des événements historiques. Le bouquin est très beau, les émotions sont très bien ressenties, et l'histoire sur un angle plutôt original. C'est l'heureuse découverte pour l'été. Marc Bougne au scénario, Voro au dessin. L'été 63, le premier tome sur deux donc vient de sortir chez Vent d'Ouest. Avant qu'on entame la partie cinéma, Dus.
De son côté, il est en train de se mettre Martel en tête.
Ouais, parce que ça.
Ça manquait celle-là.
Ça concerne. Donc il y a le festival BD de Déos également ce week-end. Quoi.
Oui. Hein, annoncé.
Et il y a un festival BD à Martel. Bon, ben c'est pas la même région, c'est à égal. Pratiquement à égale distance, je crois, de Toulouse.
Je suis pas sûr.
Grosso modo, enfin, Martel, c'est du côté du Lot, hein, par là-bas. Et c'est un festival qui existe quand même depuis 17 ans et qui a une particularité, c'est que chaque année, il y a plus ou moins une thématique qui donne le ton. Et donc là, cette année, il se trouve que c'est la manga. Hop, en long, en large et en travers. Et ça se passe à Martel. Donc pour plus de renseignements, c'est l'office du tourisme de Martel. 05 65 37 43 44.
Voilà, c'était les sorties bandes dessinées. Il est midi 28 sur la poubelle des radios. J'ai une annonce publicitaire à faire manuellement. Il y a le showcase Jamac Reggae and Unity. Excusez-moi, je vais y arriver, je suis claqué. C'est donc à El Camino, Grande Rue Saint-Michel, à partir de 20h30, métro Saint-Michel, avec Jamac, au jeu des sounds, Nicely, accompagné de Frank Coleman et Siméon Yves. Qui seront en guest, et je crois qu'il y a des gars de la radio qui y seront, puisqu'il y a un petit message de Dario qui dit allez-y, annoncez-le, c'est super, je veux tout à fait le croire. Jamac Reggae and Unity, voilà, ça s'appelle une pub faite à la maison, si je puis dire. C'est ce soir à Grande Rue Saint-Michel, donc au El Camino. Un peu claqué.
Ouais, c'est vrai que Xavier, t'as l'air crevé là.
En ce moment, je dors plutôt mal, quoi. J'ai tout essayé, hein. Pourtant, le jogging, le lait chaud, Arte, compter les moutons.
Ah mais non, moi j'ai trouvé un truc très bien pour dormir.
Ah, ah bon, c'est quoi ton truc?
Un film.
Cinéma vous est présenté par Thomas Dolby Mono Surround.
Alors j'ai trois films en fait.
Les trois font dormir?
Alors peut-être pas dormir mais ils font bâiller.
Ah d'accord, ok, bon. Par quoi commence-t-on?
Allez, on va commencer par le film sur John Dillinger, puisqu'il a la particularité d'avoir été vu par du sport et par moi, donc on va faire une chronique à deux.
Vous êtes croisés à la salle?
Non.
Non, pas du tout, non.
Voilà, Public Enemies, donc le nouveau film du dieu du polar urbain, du polar moderne, Michael Mann, avec Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Billy Crudup, Giovanni Ribisi, Stephen Dorff, David Wenham, Émilie de Ravin et Lily Taylor.
Ouais. Et Steven Lang.
Voilà, oui, ça va, j'avais oublié. Ah ben, bon, allez, tiens, je vais les rajouter, voilà.
Manuellement. Voilà,
il faut quand même le rajouter, quoi.
Voilà. Alors, dans les années 30, John Dillinger, c'est l'ennemi public numéro 1. Avec sa bande, il braque des banques hein, dans plusieurs états, mais l'absence d'un bureau centralisant les recherches rend sa capture difficile, parce qu'à l'époque, le FBI n'existe pas. L'agent Melvin Purvis est mandaté par J. Edgar Hoover, tiens donc, au sein du tout nouvel organisme fédéral pour arrêter Dillinger.
Bah oui, c'est lui qui a quasiment créé le FBI.
Ben oui, on voit la création des prémices du FBI. Ben,
c'est-à-dire que ça s'appelle pas encore vraiment le FBI, mais Edgar Hoover a déjà créé donc cette agence. Hein, dans le siècle passé, d'ailleurs, il y avait déjà eu une agence similaire, hein, qui était une agence privée, c'était la fameuse Pinkerton. Et là, Edgar Hoover et tout essaye justement de créer cette agence, et on voit à un moment le combat qu'il a face aux gens du Congrès qui lui demandent des comptes par rapport au pognon qu'on lui donne, hein, qu'est-ce qu'il en fait et tout ça, quoi. On voit que c'est en train de se mettre en place. Au départ, ça avait été mis en place, ça avait été créé après l'enlèvement du petit Lindbergh, et c'était ce qui avait décidé
qui avait été un feuilleton monstrueux pour les journaux à l'époque, ouais, avec la demande de rançon, et qui s'est mal terminé d'ailleurs.
Ouais, c'était le meilleur des polars, parce que bon, bah, on a trouvé soi-disant l'assassin, on sait toujours pas si c'est lui et tout.
Que Charles Lindbergh, en plus, était vraiment une personnalité, c'était le premier aviateur à avoir traversé l'Atlantique.
C'était une légende. Et comme à l'époque, les gens, le seul moyen qu'ils avaient de se renseigner, bah, c'était d'écouter la radio. Hein. Ils écoutaient la radio tous les jours. Ça leur faisait un feuilleton, quoi. Mais là, c'était vraiment de l'histoire vraie. Et à la suite de cette histoire, d'ailleurs, on a durci les lois concernant les rapes, les kidnappings. On a décidé que ce n'était plus un crime simplement d'État en État, mais on a instauré ça comme un crime fédéral avec des peines maximum et tout. Et c'est à ce moment-là, justement, que s'est créé, qu'Edgar Hoover a commencé à créer des équipes comme ça pour essayer de retrouver les assassins, entre autres, les kidnappeurs du petit Lindbergh. Et par la suite, il s'est recentré justement sur les bandits du grand chemin, les gangsters, ceux qu'on a appelés les gangsters à tort, parce que gangster dans son étymologie, ça veut dire quand même une personne qui appartient à un groupe de personnes, quoi. Alors que là, bon bah, les gangsters étaient plus ou moins des gens isolés, aidés par des comparses. C'était pas vraiment des véritables mobs, des véritables groupes, comme on a pu en parler après à propos de la mafia. Et ce qui s'est passé aussi, hein, c'est que Edgar Hoover, justement, a pu justement quoi se recentrer sur ce genre de personnages qui sont arrivés non pas comme ça du néant, ils sont arrivés grâce à la super crise financière 1929 et à la ce qu'on a appelé la grande dépression qui a duré 3-4 ans de 1929 jusqu'à 1933-1934 hein, et qui a fait migrer des populations entières. Il y avait des états entiers qui étaient dévastés par la misère, par la faim.
Parce qu'en même temps, il y a eu une grande sécheresse,
enfin bon, cataclysme naturel et tout.
Qui a été raconté dans Les Raisins de la Colère.
Voilà, entre autres, quoi. Donc, tous ces événements ont fait que, bon, bah, Edgar Hoover, qui a eu le nez creux, quoi, à ce moment-là, hein, de toute façon, quoi. Bon, bah, le personnage est assez équivoque, hein, de toute façon, ça, on le sait, mais qui a eu le nez creux à cette époque. l'époque pour justement pouvoir créer le FBI et pouvoir justement asseoir son pouvoir, connaître absolument tout le monde, quoi.
Et alors, donc ce nouveau film de, bah c'est réalisé par Michael Mann, on le disait tout à l'heure. Donc Michael Mann, c'est le mec qui a fait Le Sixième Sens, la première adaptation cinéma des romans de Harris avec Hannibal Lecter. C'était à l'époque avec William Peterson, hein, Grissom.
Yes.
Déjà à l'époque, il était pas gros, enfin il n'était pas rond, il était plus fin en fait. Il a eu son heure de gloire avec le monumental Hit. Puis Collateral, Miami Vice, on voit un peu sur l'esprit de ces thrillers. Il a la particularité de tourner ses films récents en DVHD en fait, depuis Collateral, puisqu'il avait souhaité utiliser cette caméra.
Ce grain et surtout la portabilité.
Et aussi pour avoir saisir les nuances dans la nuit, puisqu'il y a des scènes qui ne sont absolument pas éclairées, juste éclairées par les lueurs de la ville derrière des vitres qui se passent dans des bureaux la nuit, et il n'a pas eu besoin d'éclairage, c'est la caméra qui a capté le maximum d'informations, puisque bon, qui dit thriller dit automatiquement à un moment donné scène urbaine de nuit, donc voilà, ça se prête vachement bien. Et c'est cette utilisation de la caméra HD-DV sur Public Enemies qui fait déjà un peu un effet bizarre, hein, puisque généralement quand on dit film d'époque, film de gangster avec des vieilles voitures, les vieilles pétoires et tout, c'est marrant de voir un peu ça tourner avec une caméra numérique, un peu ce qu'avait fait d'ailleurs Sofia Coppola pour Marie-Antoinette. C'est un côté vachement contemporain en fait, qui c'était encore plus flagrant pour Marie-Antoinette, puisque t'avais l'impression vraiment de vivre à Versailles. Alors malgré son statut de film d'époque, Public Enemies poursuit la thématique de Michael Mann, hein, du duel chasseur-proie, même si là, à mon sens, il est vraiment relégué un peu plus au second plan, ce fameux duel entre Christian Bale et Johnny Depp, qui incarnent respectivement Melvin Purvis et John Dillinger. Justement, Michael Mann adore les personnages obsessionnels, les fusillades en public, les nombreux décors, donc ça on retrouve ça là-dedans, mais le film est plus centré sur Dillinger lui-même et sa bande, et là on voit qu'il est pourchassé un petit peu par Purvis et par Hoover, mais c'est relégué au second plan. On s'intéresse plus à Dillinger, son rapport avec le personnage de Marion Cotillard. Bon voilà, c'est on va dire c'est plus classique en fait, c'est plus beaucoup moins jeu du chat et la souris obsessionnel entre deux gars, entre deux équipes. Voilà. Donc le film est centré sur Dillinger. Moi, l'impression que j'ai eue sur le film, c'est que il était un peu longué. Du sport, tu me disais que toi, tu t'étais pas ennuyé.
Non. Justement, j'ai trouvé que bon, vu la distance, quoi. Enfin, vu la longueur, ça passe quand même plutôt bien, quoi. Ça va, hein, quand même.
Puis le film est assez linéaire, puisque on voit Dillinger avec l'espèce de commando qui se forme pour essayer de l'arrêter. On voit Dillinger qui rencontre la nana, qui fait des jours heureux avec elle. Il a des soucis avec sa bande, il fait un casse, après il fait refait un casse, il fait un troisième casse. Voilà, c'est quand même assez linéaire. Bon, le film d'époque se prête, de toute façon, se prête un petit peu à ce genre de trame aussi. Hein, on va pas aller inventer.
Ouais, mais moi je pense que il y a aussi des références obligées, quoi, dans ce genre de film. Et il y a peut-être un rapprochement à faire avec Bonnie and Clyde, qui sévissait pratiquement à la même époque. Hein, et comme on sait que bon, c'est quand même un film hollywoodien et tout, donc il faut généralement quand même une mini romance, quoi, pour que ça tienne le choc et que madame puisse accompagner monsieur à la séance de cinéma et pas trop se faire chier.
Oui, hein. Et ou aux séances de chevaux de course et courses de chevaux. Hein.
Bon, ceci explique cela, à mon avis, quoi. Je pense, je pense.
Accompagner le mec sans le faire chier.
Sinon, pour le reste, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre la façon dont c'est filmé et le propos, parce que bon, c'est vrai que c'est un film d'époque et tout. Par contre, ce qu'il y a de très intéressant chez Michael Mann, c'est son souci du détail, que ce soit le détail visuel ou que ce soit le détail dans le texte, dans la référence. Il replace bien les choses dans leur contexte et en plus il ramène quelques informations qui ne sont pas forcément des choses connues de tout le monde, voire même du public américain.
Mais en tout cas, Mann, il est connu aussi justement pour le son haut degré de d'investigation avant le pour la production du film et la préparation, puisqu'à chaque fois que tu vois dans les bonus de ces films, il y a toujours les personnages s'ils veulent creuser un petit peu, enfin les acteurs s'ils veulent creuser leur personnage, il y a toujours une montagne de détails. Quand on sait aussi que Johnny Depp, il est vachement impliqué aussi sur les personnages qu'il incarne, là apparemment, il avait pas mal de matière à creuser. Après, on va en venir justement sur le casting. Bon, Johnny Depp, il est correct, hein, mais bon, c'est vrai qu'on le préfère un petit peu dans les rôles à un peu démesurés, à Charlie Chocolaterie, Jack Sparrow, des trucs comme ça, parce que c'est là qu'il est vraiment génial. Là,
ouais, mais il est sobre, mais ouais. Bon, il peut difficilement faire autrement, moi je pense, hein, de toute façon, parce que bon, déjà, le fait du passage de l'histoire vraie à l'histoire hollywoodienne fait que, bon, ben, le mec qui au départ a une trogne vraiment presque de fin de race, quoi, faut voir la gueule du vrai Dillinger, quoi, pour faire vraiment la différence. À côté, avec en face, une figure angélique, celle de Johnny, quoi. Bon, ok, on se dit bon, on laisse tomber. Il faut faire abstraction de ce genre de choses, à mon avis, si on connaît un petit peu l'histoire. Parce que bon, l'attrait du film n'est pas tellement dans l'histoire, hein, ça c'est clair. L'histoire, on la connaît, on sait très bien comment ça se termine et tout. Il y a déjà eu des films par le passé, dans les années 50-40, qui racontaient exactement la même histoire, pile poil. Hein, sur la même période. Bon, c'est plus pour la façon dont Michael Mann et la façon dont les gens qui ont travaillé sur le film arrivent à rendre le film crédible quand même, hein, et regardable. La preuve, bon, bah, ok, quoi, le film est assez long en durée, mais ok, ça va, hein, on adhère du début jusqu'à la fin.
Ouais, c'est vrai que moi déjà je m'attendais à un truc, j'aurais pas dû, j'avais un a priori, je m'attendais à du hit dans les années 30 en fait. Le film surprend par son ton finalement assez léger, je trouve, à part les interrogatoires musclés à la fin où tu vois que les personnages dégustent, ou même les séquences de
la nana, quoi.
Ouais, voilà. Bah, c'est pour pas spoiler en fait. Okay. À part les séquences de gunfight aussi, où là on voit qu'ils rigolent pas au niveau aussi ambiance sonore, parce que là il faut pas avoir le tympan fragile. Après le film, voilà, c'est Johnny Dillinger, c'est un bon vivant, le mec il dit je sais jamais où je serai la semaine prochaine, bon voilà, je vis comme je veux. Bon, le film, voilà, c'est centré autour de Dillinger qui pense aussi à s'amuser. Bale en face, ben moi j'aime bien Christian Bale quand il a son personnage qui est imbibé d'une espèce de noirceur, et là c'est pas le cas dans le film, et je trouve qu'il est assez fade en fait quand il joue des personnages complètement positifs. Christine va me tuer, je sais, sorry.
Moi je crois pas, non.
Non ?
Non, je crois pas, non.
Bon, ça va, ce soir on est invité.
Bon voilà, moi j'avais le défaut de m'attendre à du 8 dans les années 30, j'ai eu un peu tort. Ce qu'on se disait en off avec Duce, puisqu'on a déjà discuté il y a une semaine, le film est bien, mais pour du Michael Mann...
Ouais, il y a mieux, quoi.
Voilà, il y a mieux, il a expérimenté beaucoup plus ailleurs, il a fait beaucoup plus fort aussi. Bon voilà, c'est quand même... je crois que c'est la première fois aussi qu'il s'attaque à la vraie bio en fait, des films à partir de vrais personnages, même si Heat était inspiré de vrais gangsters, mais c'était pas vraiment les mêmes.
C'était composite, hein. C'était ouais. Composite surtout.
Voilà. Bon, Public Enemy, ça reste quand même du grand cinéma, tout à fait recommandable. Mais si vous adorez Michael Mann, c'est vrai qu'il y a quand même une légère déception dans le coin de la bouche. Public Enemy donc de Michael Mann, avec Johnny Depp et Christian Bale, qui reste quand même
la faute de goût, hein, c'est Diana Krall qui à un moment donné du film chante dans une boîte de nuit et tout, genre Cotton Club comme ça, hein, qui nous fait bye Blackburn. La chanson est reprise deux fois d'ailleurs à la fin du film aussi, elle est reprise. Alors là c'est quand même un petit peu dur, quoi.
Ouais, bon, je suis pas sûr que je vais m'endormir sur un polar.
Bon, alors on va essayer avec... bon là, ça va être dur de s'endormir devant, mais c'est vrai que par rapport aux deux premiers...
Ouais.
Alors, maintenant, on entame le film d'animation en 3D avec L'Âge de Glace 3, Le Temps des Dinosaures. Quelqu'un l'a vu ici ?
Alors moi, je l'ai vu, mais en 2D, hein, j'ai pas...
Ah, moi aussi.
Voilà, de toute façon, quoi. Parce que, si tu veux, quand je suis allé le voir... excusez-moi. Quand je suis allé le voir, je savais pas qu'il y avait une version 3D. Bon, pour moi, 3D, c'était la manière dont c'était fabriqué, quoi, tu vois.
Hein, oui, mais
normal. Ouais. Et donc, je suis allé le voir et je suis sorti un petit peu déçu.
bon, les enfants se sont bien amusés quand même, hein, y a pas de problème.
Ouf.
Je me disais, bon bah ok, je repérais un petit peu quelles étaient les longueurs dans le film. Et en fait, ce sont les longueurs qui correspondent aux séquences qui doivent être vraiment assez délirantes en 3D, quoi. C'est-à-dire avec les lunettes et tout, avec des effets qui doivent vraiment bien péter. Ce qui fait que bon bah le film quand tu le regardes en 2D normal hein, que tu payes le tarif normal quoi et pas le tarif
à
je sais
3
pas combien,
euros de plus.
3 euros 4 euros de plus pour les lunettes que tu fous la poubelle après quoi.
Oui.
Tu vois.
Oui parce que t'es, quand tu payes pour la séance en 3D, tu es obligé de payer les lunettes avec.
Mais oui, mais c'est ça, tu payes le bout de carton avec les deux filtres.
Ouais, hein, le rouge et bleu. Ouais.
Voilà, c'est truc à la con.
Voilà, et quand
le truc rouge et bleu, c'est pas lumière polarisée.
Non.
Et quand tu es comme moi,
oh putain, ça doit être super désagréable.
Et quand tu es comme moi, que tu as dans ta vie été opéré de strabisme et que tu as les yeux niqués parce que tu peux plus voir en 3D, bah c'est un peu con de payer 3 euros de plus. Donc voilà.
Ouais. Alors, non, mais le problème en plus, c'est vrai, maintenant que tu le soulèves, quoi, c'est vrai parce que.
Maintenant je comprends pourquoi tu prends jamais les angles droits en voiture.
non, parce que en fait, comme je suis allé voir pas mal de films au cinéma quand j'étais un peu plus jeune et tout, quoi, que ce soit même à Londres ou quand il y avait des films en 3D qui passaient, quoi, si tu veux, quoi. Pour les gens qui n'ont pas de lunettes, ça pose pas trop de problèmes.
Amis auditeurs, donc, au cas où vous ne l'auriez pas compris, il semblerait que du sport non seulement n'ait pas grand chose dans sa rubrique télévision, mais il soit carrément vide, point de vue sport. Je remets son micro.
Tu as raison pour la 2.
T'inquiète, on a quelque chose pour toi.
D'accord. Non, mais c'est vrai que bon bah ça rend quand même pas mal. Hein, ça les effets sont vraiment bien rendus. Mais bon, bah comme ça coûtait vachement cher de faire ce genre de film à l'époque, quoi. Bon, bah ok, il y avait que 5 à 10 minutes durant tout le film où tu avais vraiment les effets avec les lunettes. Et tout, le reste du temps, tu pouvais relativement bien te passer des lunettes hein, sans problème, quoi. Mais il fallait également que les cinémas soient équipés parce qu'à l'époque, bon, bah c'était l'histoire des deux projecteurs
avec
qui projetaient simultanément, quoi, des images sur le même écran, quoi. Mais bon, ça rendait quand même pas mal. Mais là, bon, bah, bof, quoi. Hein,
Oui, ben c'est vrai qu'il y a des longueurs et que on a moins la surprise par rapport aux deux premiers, peut-être parce que le décor a été planté et que là, ils se contentent de faire vivoter les personnages en les propulsant dans d'autres univers, dans d'autres aventures. Mais c'est vrai que on y perd un petit peu. Le film d'animation est produit par la Fox, donc c'est réalisé par Carlos Saldana. Alors on suit les aventures de Manny, le mammouth qui file le parfait amour avec Ellie qui est enceinte. Cet heureux événement va amener leurs compagnons à prendre du recul sur leur vie, alors que Diego, le tigre aux dents de sabre, se sent ramollir et veut prendre le large. Sid, c'est quoi comme animal Sid? C'est un espèce de
c'est un espèce de meerkat quoi, mais ouais, enfin, sans museau
avec
quoi.
Des yeux écartés. Sid vit la grossesse par procuration et se sent investi d'une mission, veiller comme sur la prunelle de ses yeux sur 3 œufs de dinosaures. Donc monumentale erreur, ce qui devait arriver arriva, la mère débarque, elle est pas contente, Sid est capturé et ses amis décident de partir le secourir jusqu'au tréfonds du monde des grosses bébêtes, les dinosaures, et départ Buck la belette, une sorte d'aventurier.
C'est le monde perdu quoi.
C'est ça.
Ouais,
mais elle a dimension gore en moins. Buck la belette, qui est une sorte d'aventurier à moitié fou qui vit dans les grottes. Alors, comme je disais, chaque nouvel épisode de la série apporte son lot de nouveaux personnages rigolos. Dans le 2, on avait l'apparition de la mammouth femelle qui était persuadée d'être un opossum, donc elle vivait la tête en bas, en train de se cacher avec ses deux amis opossums. Et donc, dans le 3, on a le nouveau personnage, donc c'est Buck. Alors, il est doublé en français par le doubleur officiel de Jim Carrey. C'est énorme. C'est le personnage, déjà, tu te fends la gueule. Alors déjà, tu vas voir le film, ne nous cachons
pas,
pour le personnage secondaire qui est Scrat, l'écureuil avec son gland, là... Puisque donc ils misent tout sur les bandes annonces sur lui. Et là c'est vrai que Buck c'est un bourlingueur qui a un bandeau sur un œil. Le mec la créature il a des dialogues, mais par exemple il y a quelqu'un qui lui dit: et sinon ça fait depuis longtemps que tu es dans cet état mental? Et lui répond: je sais pas trop, cela doit dater de quelques semaines quand je me suis réveillé marié avec un ananas. Ou alors attends, il faut se méfier, il faut voir d'où vient le vent. Et tu sais d'où il vient? Je ne sais pas, je ne parle pas le vent. Voilà, c'est que des dialogues comme ça, tu te dis ça.
C'est un peu à la...
Mais tu as l'impression que c'est Ventura, c'est un Jim Carrey qui est au milieu des bébêtes.
Bah à voir si peut-être c'est lui qui a fait la...
Non, c'est pas Jim Carrey, non, dans la VO, c'est dommage. D'accord. Alors la thématique de ce nouvel épisode, donc c'est avec la mammouth qui est enceinte, donc c'est la prise de responsabilité, un peu comment réagissent les personnages par rapport aux créatures qu'ils doivent protéger. Alors le mammouth, forcément, par définition, il va protéger tout le monde. Alors il est très papa poule, enfin futur papa poule, il va tout préparer le terrain, il couvre sa nana et tout. T'as Sid qui voudrait connaître la même chose, le pauvre, mais il y a personne. Alors il essaie de se retrancher sur ce qu'il peut, sur les œufs de dinosaures. Diego, il se voit qu'il est tout mou et il désespère de plus pouvoir protéger personne. Alors il a un gros coup de blouse dans le film et tout. Donc c'est par rapport à justement à la maternité.
Surtout au début, quoi, quand il y a la poursuite avec le
avec
la gazelle, là, ouais, ouais. Le truc et tout, quoi.
Et l'autre il est mort et il dit ah, 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 ah. Voilà, on sent les grands moments forts qui vont bien faire rire. Bon voilà, le temps dinosaure, bon, on délaisse par définition le côté glacier pour avoir la jungle verdoyante et la chaleur des volcans. Bon, ça s'appelle l'âge de glace, alors bon, c'est bien qu'à un moment donné, il fasse une parenthèse.
Bah, c'est une licence.
Oui, c'est une licence, mais...
On peut pas mettre un autre nom. Et c'est un peu ça qui fait tromperie.
Ben oui, ben on espère que ce sera le seul épisode où ils délaisseront les glaciers, les stalactites et les lacs gelés et tout. Parce que c'était quand même bien. Et puis alors, le côté négatif de cette jungle, c'est que ça a été vu et revu. Il y a le pont suspendu, il y a la poursuite avec les dinosaures volants, avec ils ont mis des bruitages d'avions de guerre dessus. Ça a été vu 100 fois ailleurs. Il propose pas vraiment de surprise. Tu vois ça, c'est filé. Tu ris quand il faut rire.
C'est un peu le problème de toute façon des productions de Fox en 3D, c'est que ils sont pas développeurs de logiciels contrairement à Pixar.
Oui.
Et d'un autre côté, on a l'impression que ça ronronne. C'est on a trouvé un truc qui fait rire. Et on essaie de trouver des gags. Alors des fois c'est un peu c'est pas à la Tex Avery parce que ça va pas aussi vite. Donc c'est des gars qui essaient d'être un truc un petit peu planifié et tout, et puis après ben voilà, c'est grand truc toboggan et tout avec la caméra dans tous les sens.
Ouais, mais c'est un peu lourd. Comme tu l'as dit, c'est une saga.
Je pense que c'est fait expressément pour la 3D. Il y a plein de passages comme ça.
C'est le seul intérêt du film, c'est la 3D, parce que sinon il tomberait complètement à plat en dessin animé. Nous aussi on fait de la 3D.
Exactement.
Bon, c'est vrai qu'on loue à Pixar les logiciels.
Mais attention, c'est quand même du très bon. Hein, moi j'étais avec Sabrina, mais Sabrina elle était en larmes tellement elle rigolait. Bon, Scrat, c'est les épisodes, il faudrait qu'ils montent les petites virgules avec Scrat, qu'ils en fassent, qu'ils le sortent en bonus, en m'a donné en DVD à 10€. Et puis,
ils feront un festival pour le cinéma, et puis voilà.
Ben voilà, les virgules de Scrat et la nouvelle femelle qui se trouve, c'est à mourir de rire. D'ailleurs, c'est pas un hasard que les bandes annonces ne le mettent qu'en scène à lui. C'est un personnage, mais ils ont trouvé le truc là. Il faudrait qu'ils fassent comme pour Kung Fu Panda. Ils avaient fait un spin-off en 2D avec les légendes, les espèces de le tigre là et tout, dans un cours de 25 minutes. Il faudrait qu'ils en fassent un exprès en 2D avec Scrat. C'est énorme. Ça va te tirer les larmes tellement tu rigoles. Voilà, c'est comme tu disais, c'est une saga qui ronronne. C'est un peu comme Shrek. Tu sens qu'ils peuvent en faire 15 derrière. Il n'y a pas de problème. Après, il y a avoir les petits enfants.
Techniquement, ils n'ont rien à amener. Ils restent sur eux-mêmes que les premiers.
Il
voilà.
n'y ouais, voilà. a pas d'éclairage vraiment nouveau d'un épisode à l'autre. Bon, c'est ça qui fait un peu bailler, d'où le titre, l'intro de cette chronique cinéma, Xavier. Donc, L'âge de glace 3, Le temps des dinosaures, un film d'animation 3D produit par la Fox, réalisé par Carlos Saldana.
Attention, je vais dégainer ma baguette.
Harry Potter et le prince de sang mêlé. Voilà, c'est le numéro 6 déjà. Oh là là. Un film de...
Et il y en a encore combien de prévus?
Alors, il y en a, normalement, il y a encore un bouquin adapté, mais on le fait en deux films.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Alors, c'est un film réalisé par David Yates comme le précédent, avec Daniel Radcliffe, le casting habituel, Emma Watson, Rupert Grint, mais avec les adultes, donc Alan Rickman, Michael Gambon, Jim Broadbent, Helena Bonham Carter, David Yulis, et j'en oublie parce qu'il y en a plein qui font des petites apparitions. Alors les méfaits des mange-morts deviennent de plus en plus nombreux, plusieurs personnes se font en effet enlever, et pour sa rentrée à Poudlard, Harry trouve Drago Malfoy de plus en plus bizarre et le soupçonne de tramer quelque chose, surtout que celui-ci semble avoir été investi d'une mission importante. Par les forces du mal, bien sûr. Mais Harry est également chargé d'une mission par le professeur Dumbledore, se rapprocher du nouveau maître des potions Horace Slughorn, dont le terrible secret pourrait se révéler crucial dans la lutte contre l'homme dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors, moi j'ai toujours pas lu les romans à part le 1, hein, donc je me contenterai du film.
Si t'as envie, on peut appeler Philippe Fraisière. Hein.
Pourquoi il a lu les Harry Potter au film ?
Il est fan.
D'accord. Alors, moi mes préférés c'était Le Prisonnier d'Azkaban, le 3 avec Gary Oldman, et le 4, La Coupe de Feu, qui était vraiment épique. Et c'est vrai que depuis ces films-là, même lors du Phénix, on a l'habitude d'être surchargé d'informations pendant les films. Il faut super se concentrer, et même à la deuxième vision, tu dis « Ah ouais, mais ça j'avais pas vu !» et tout. Et là, c'est vrai que ce qui frappe, c'est que dans ce nouvel épisode, c'est super au ralenti. C'est-à-dire que c'est l'épisode, tu es là, mais c'est quand qu'il se passe quelque chose. C'est Beverly Hills, c'est les étudiants, c'est encore pire que les deux précédents, c'est qu'ils passent leur temps à se bécoter et à chercher des nanas.
Et ils ont l'âge, hein.
Tout à fait.
Et à cet âge-là, tu penses qu'à ça pratiquement.
Mais tout à fait, sauf que voilà.
Tu m'aurais préparé.
On va pas qu'à cet âge-là, mais bon.
Par exemple, dans le 4, c'était épique, t'avais un grand tournoi avec des combats de dragons et tout. Là, t'as un peu de quidditch, mais c'est les amourettes, c'est dans les. Ils arpentent les couloirs, tiens, machin, tu crois qu'elle va vouloir sortir avec moi et tout. C'est ça pendant tout le film. T'as des parenthèses où t'as Drago Malfoy, donc c'est le blondinet là, qui. On voit qu'il est investi d'un truc et qu'il le bouffe et tout. Et il va tenter des expériences, il va sortir une armoire magique où il va essayer de transposer des objets. Tu dis, ouh, ça sent la mission qui pue là. Et voilà, et à part ça, t'as retour à Beverly Hills.
C'est de guerre.
Voilà. en fait, le film, il a une faculté absolument considérable à désamorcer ce qui pourrait donner lieu à des grands moments de cinéma dedans.
Ah ouais.
T'as un personnage super important de la saga qui se fait désinguer et c'est relégué en hors champ. T'as pas de ralenti, de oh mais non. Non, il meurt. C'est d'accord, ok, donc ça c'est fait.
À ce qui paraît, ce film est un très bon somnifère.
Moi je me suis fait chier, je me suis dit, mais c'est
ton
quand
popo
ça
a dit qu'il s'était endormi.
Ah, ouais, moi pas autant, mais après t'as, à un moment donné, ça tourne autour du prince de Sang-Mêlé, mais c'est sur Lego second plan. Le Harry qui tombe sur un bouquin qui a été auparavant, qui a appartenu à quelqu'un de, tu devines, assez important dans la série. Il y a beaucoup de sorts qui sont dévoilés dedans dans le bouquin, donc Harry a accès à des secrets de potions, des secrets de sorts qui sont pas connus par les autres. Donc peut-être que le bouquin a été laissé pas par hasard à son attention. Et à la fin tu découvres l'identité du prince de Sang-Mêlé, tu t'attendais pas à ce que ce soit lui, et il dit ouais c'est moi. Et voilà, et en fait à la fin, je vais quand même vous révéler.
Attention, spoiler !
Je vous révèle l'esprit du film. En fait, c'est ce film est à Harry Potter ce que l'Empire contre-attaque est à Star Wars. C'est-à-dire qu'à la fin, les gentils se prennent une branlée, mais pas possible. Le mec, le héros, il est aux orties complètement à côté de la plaque pendant tout le film. Dans les autres films, tu sens que le Lord Voldemort il s'échappe à chaque fois, ou t'as un gros décès à la fin, tu t'es abasourdi, mais t'as Harry Potter, il a fait quelque chose dans le film, il a essayé de repousser les assauts et tout. Et là, en fait, dès qu'il croit comprendre quelque chose, en fait, il se rend compte qu'il est complètement aux pâquerettes. C'est son fait d'arme dans le film, ça aura été de faire boire une potion spéciale à Dumbledore. Voilà, Dumbledore, il va l'amener à un truc secret, il lui dit « Tu m'obliges à boire la potion ». Donc Harry l'oblige à boire la potion. Et voilà, c'était son haut fait du film, au revoir.
Ah ouais.
Voilà, et ici, il aura quand même embrassé une fille. C'est bien. Voilà, tu sors du film, t'es frustré, puisque les méchants gagnent. Harry Potter, il a rien fait.
Là, c'est quoi l'esprit? C'est rendez-moi les 2 heures de ma vie ou rendez-moi les 8,50 €?
En fait, t'as quand même l'impression que le film sert à quelque chose, c'est à préparer les deux derniers. C'est-à-dire, c'est comme si dans La Peur contre Attaque, tout le film c'était Luke à Dagobah qui s'entraîne, et à la fin il se fait la main. Voilà. Ah ouais. Bon, est-ce qu'on peut dire vivement les suivants si c'est pareil? Je pense pas que ce soit pareil parce que le dernier tome est dantesque à ce qui paraît. Et moi je vis avec une Harry Potterophile, donc elle me dit ah mais ils ont oublié ça, et puis en fait ce tome est super important. Alors c'est vrai que Harry Potter il est un peu pâquerette, mais le mystère de la magie ils en parlent pas, Hagrid il est relégué au figurant alors qu'il est super important dans le bouquin, tel personnage il est introduit, mais tu vas voir ça va être une importance pour la suite et tout. Mais quand tu vois le film, tu ne sais pas tout ça. Donc tu sors du film. Ouais. Voilà. Donc Harry Potter et le prince de sang mêlé de David Yates, vous pouvez aller le voir, mais attention, c'est un peu passif. Et puis bon, voilà.
Et c'est l'heure du top horaire et il est 13h.
Tout de suite, le JT de Jean-Pierre Pernaud.
Et presque. Ma foi, Duce, avant que tu commences ta rubrique et tout le reste.
Vous pouvez pas attendre ce soir là.
Ah non, parce que là, mon vieux, il y a chronique.
Tradition, émission, supplément week-end oblige.
Ah ben merci. Hein. Merci. Hop.
Donc aujourd'hui,
oui, c'est pas drôle sinon.
Parce qu'aujourd'hui, du sport a un an de plus, amis auditeurs.
Bravo Luc.
Alors attends. Pour faire vite, il faut l'ouvrir la salope, quoi, comme d'habitude.
Mais ouvre-le à côté du micro pour qu'on sente le papier qui déchire. Ouais.
Aïe. Bon, déjà, ça c'est un DVD que mes enfants ne verront pas.
Un coffret de DVD par...
Roman érotique de Tatsumi Kumashiro.
Ah ouais, effectivement, là, il y a mettre en tout en haut des étagères.
Et...
Allez, le titre.
Summer of the 80s.
Et à l'arrière, tu as un indice?
C'est une couverture de Claire, donc.
Oui, Serge Claire, effectivement. Et regarde tout en bas. En coédition.
En coédition avec Arte. Hein, ça fait partie de la thématique d'Arte durant les 2 mois de juillet et d'août, hein, qui concerne le Summer of the 80s. Décennie donc qui concerne Arte cette année. L'année dernière c'était 70 et l'année d'avant c'était les années 60. Ben, je vais en parler un petit peu, hein, de toute façon.
Ouais, je m'en doutais, c'est pour ça que parce que c'est la contrepartie contre-culturelle, justement, parce que Arte va parler de cinéma, va parler de musique, a déjà commencé d'ailleurs, hein, suite à la disparition de Michael Jackson, ils ont un peu avancé une partie de leur prog.
Ah bon, il est mort?
et dedans, donc, il y a Serge Clair, il y a Jean-Claude Denis qui sera en dédicace, donc à EOS, et pas mal d'auteurs qui, en fait, étaient plus à l'époque chez Fluide Glacial.
Il y a Bouzard aussi.
Pas chez Fluide Glacial, pardon, aux Humanoïdes Associés que chez Dargo, chez Pilote, quoi.
Ouais, il y a Bouzard aussi, hein, c'est le mec qui fait une page dans chaque numéro de SoFoot où il parle un petit peu plus ou moins de l'actualité par rapport à ce qu'il y a dans le SoFoot du mois. Mais bon, c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien, quoi. Puis bon, bien sûr, les Paringos aussi, quoi. Ok, on passe à la télé.
On va peut-être faire une interruption musicale. J'ai quelque chose, je pense que tu vas reconnaître le groupe. C'est un petit peu obligé. Allez, c'est qui? En deux mots. H-L
Human League.
Ah oui.
C'est les intros avec boîte à rythme comme ça dans les années 80, il y en a des centaines. Alors,
ah oui.
Faut attendre quand même les premiers accords.
On peut pas se tromper en plus sur l'auteur.
We'll be right back.
s'est fait remixer dessus. Mashup sur Human League. Don't give up wanting me baby par Mad Mix Mustang. C'est sur une compilation totalement illégale qui s'appelle Guilty Pleasures. Et donc là c'est Rick Rowd. Et j'ai foutu déjà en début de semaine sur mon blog Nirvana et Rick Astley. Ça passe plutôt bien. C'est étonnant. Il y en a qui sont beaucoup moins réussis, je te rassure.
Ouais, Arte d'ailleurs, pour en revenir à Arte qui nous diffuse toujours dans le Summer of 80s bien sûr. Alors il y a plusieurs soirées distinctes, c'est surtout le mardi et le jeudi soir hein, qui sont des soirées consacrées donc à cette thématique. Mardi par exemple, après le super concert que tout le monde a déjà vu 150 fois de Queen à Wembley, il y a par contre cette thématique qui s'appelle Pop Gallery Reloaded, qui est un petit peu un petit historique en 50 minutes d'un groupe ou d'un personnage des années 80 qui a un petit peu compté, on va dire. On avait vu déjà Gary Newman, comment il s'appelle le mec qui était en clown là, Klaus Nomi, voilà.
Ah, oui.
Et là c'est un Pop Gallery Reloaded mardi prochain à 21h50 donc qui est consacré à Falco, Johann Hölzel, Falco, Der Kommissar geht um. Voilà, et donc ça jette un petit regard sur la carrière de
t'as
ce monsieur.
T'as pas assez dansé toi dans les balles
Johann Hölzel.
Si, Einsei Polizei, c'était mon époque ça.
Et qui a quand même eu une carrière assez respectable, moi je dis, hein, parce que c'est un documentaire qui est déjà passé.
C'est un putain de compositeur en plus.
Ouais, qui est déjà passé sur Arte, me semble-t-il, il y a 2-3 ans, mais ça vaut le coup, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce type là. Il a pas, c'est pas que l'homme d'un seul tube Der Kommissar, non, il a fait plein d'autres choses. Donc ça sur Arte mardi prochain à partir de 21h50. Sinon, le retour des fans, il existe des fans en France et je suis très content, je suis ravi. Car TF1 et en plus c'est
sur TF1, tu vois quoi. TF1 rediffuse enfin cette série magnifique, malgré l'horaire un peu tardif, mais c'est pas grave, on sera quand même devant notre écran. Alors il est vrai que la première diffusion, ça avait été un horaire assez tardif, hein, c'est-à-dire troisième partie de soirée aux alentours de 11h.
Très chasse.
Mais il y a quand même eu un noyau dur, hein, un quart. Il y avait quand même 1 500 000 personnes qui ont suivi donc cette série. Je veux bien entendu parler de Jardin Secret.
Oh non,
Goy Chevroven.
Oh, oh mais pff, en oh plus non, on
qui est rediffusé.
C'était gros comme une maison.
Qui est rediffusé sur TF1 à partir de lundi 0h10 avec Daniel Boissevin. Qu'on avait déjà vu dans Secret d'héritage, hein, je rappelle l'autre soap hollandais qui était passé sur Canal Jimmy. Et c'est donc eh bien en fait c'est une création de la petite sœur de monsieur John de Mol, le pape de la télé-réalité, c'est Linda de Mol donc qui est à l'origine, hein, de ce Jardin Secret qui n'est ni plus ni moins qu'une copie batave, j'ai bien dit batave et pas bâtarde, de Desperate Housewives, bien entendu, hein. Alors le début, premier épisode, je récapitule vraiment vite fait, premier épisode, donc lundi soir à partir de 0h10, eh bien ça c'est l'installation donc d'un couple dans leur nouvelle maison et ça va être eh bien les rapports avec trois autres voisins, trois autres familles donc qui sont assez représentatives. En fait, mais l'intérêt c'est que les situations sont bien outrancières et tout, on en rajoute à fond les manettes et c'est ça qui fait vraiment très 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 plaisir, c'est complètement débridé, il y a pratiquement aucune retenue, on va dire, il y a quand même des trucs qu'on touche pas, mais sinon ça va quand même assez loin.
Sinon okay. On touche à tout, sinon.
Sinon, on touche à tout, c'est le cas de dire. avec même, mais ça c'est dans la saison 2, donc il va falloir patienter. Hein, une apparition d'André Rieu live en direct lui-même et tout son orchestre, hein, tu vois, parce qu'il est hollandais aussi. Hein, donc,
oui.
Ok. Donc
Y a pas
c'est Jardin Secret.
Y a pas Rougui dedans.
Non, je crois pas. Non. C'est Jardin Secret. C'est sur TF1 à partir de lundi 0h10. Si vous avez pas vu, si vous l'avez loupé la dernière fois, regardez déjà le premier épisode. Tu meurs quoi. C'est bon. Tu te dis c'est bien lancé. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu regardes le premier épisode, tu te dis waouh, c'est quand même bien carton. Mais ça redescend pas quoi. Les épisodes suivants, c'est toujours pareil ou ça monte. C'est vraiment excellent. Donc Jardin Secret, lundi sur TF1 à 0h10. Il y a également une autre rediffusion qui est bienvenue, hein, parce que ça faisait pas mal de temps quand même. À l'origine, ça avait été diffusé sur Canal Jimmy. Là, c'est Paris Première qui reprend les rênes. Jeudi prochain à 22h30, Epitaphios, une mini-série en 13 épisodes. Qui est une production de la chaîne HBO, la chaîne qui nous a sorti Les Sopranos, qui nous a sorti plein d'autres grosses séries Oz, entre autres, hein, pour citer les plus connues, et qui a ouvert une filiale en Amérique du Sud, en particulier en Argentine, et c'est donc l'une des premières productions produit par HBO Sud America, hein, et c'est donc cette histoire de serial killer qui s'appelle Epitaphios avec Antonio Biramante, Paola Krum et Juli Chavez. Et ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est que dans le générique, en plus, on te montre des personnages qui apparaissent des fois. Le visage du tueur en série, tu le vois au bout du 5e ou 6e épisode, je crois, et tu le vois dans le générique, le mec, parce que c'est quand même des personnages principaux, donc tu vois la gueule qu'il a dès le départ. Bon, rassure-toi, après, c'est assez bien foutu pour que, il fasse des apparitions grimées, mais donc que tu le reconnaisses pas quand même. Et il y a également une autre nana qui apparaît dans la deuxième partie de la série et que tu vois également au générique. Mais bon, à part ça, c'est vraiment quelque chose qui te laisse sur le cul de savoir que ces gens-là, parce que c'est entièrement argentin, c'est-à-dire ça a été scénarisé par des Argentins, des auteurs argentins. Antonio Biramante qui joue tueur en série est également un chanteur jeune à la mode et tout, qui plaît un petit peu aux jeunes filles grâce à son physique avenant. Mais bon, au niveau de la substance de la série, c'est excellent du début jusqu'à la fin. Attention, c'est très cru, hein. C'est l'histoire de serial killer qui va vraiment très très loin, mais c'est bien foutu. Il y a peut-être un ou deux épisodes qui sont inégaux parce qu'on insiste plus sur le côté de la romance entre les deux personnages principaux que sur le déroulement de l'histoire et le déroulement de l'enquête. Mais à part ça, il n'y a rien à dire, hein, du début jusqu'à la fin, c'est magnifique. Donc c'est sur Paris Première à partir de jeudi prochain, 22h30,
Epitaphios. On l'attend avec impatience.
documentaire qui va vous intéresser, Spécial Geek. De toute façon, c'est une soirée Spécial Geek sur
Sifi. Ah non, pas cette bouse.
Sifi Boys, les pionniers du fantastique où eh bien Peter Jackson, John Landis, Roger Corman et beaucoup d'autres racontent ils sont devenus fans de science-fiction et pourquoi après ils ont tourné des films donc c'est suivi à 22h05 du documentaire qu'on a déjà vu qui est pas mal, Spielberg par Spielberg. Donc Spielberg qui dit ah putain, je fais des trucs vachement bien, c'est super quoi, et tout le monde m'aime. Alors bon, ce qui est con, c'est qu'il est pas critique du tout, donc c'est un peu dommage pour ça, quoi. Mais bon, à part ça, pas de problème. C'est toute la carrière de Spielberg, et il te raconte, ce film, j'ai voulu faire ça,
Il s'autocongratule.
Voilà. Mais il y a pas aucun esprit critique, c'est ça qui est un petit peu dommage. Vraiment.
C'est la plupart des making of.
D'accord, j'aurais pu faire autrement, mais enfin bon, c'est bien.
La plupart des making of et documentaires qui viennent d'Hollywood, c'est comme ça.
Et à 23h05, justement, ton émission fétiche, Geekdom.
C'est une catastrophe ce truc. Le truc avec l'IO.
Oui, c'est vrai.
Sais, le truc super trendy là.
Alors par contre, pour ceux qui aiment bien Tamsin Outhwaite, qui est dans la lignée des actrices blondes britanniques, anglaises en particulier, genre Samantha Janus, Billy Piper, tu vois quoi, blondes, cheveux raides et tout, bien foutues, bien gaulées, qui ont même fait une carrière un petit peu dénudée. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer ses seins en page 3 d'un magazine? Aucun, pas du tout, maintenant. Et la preuve, Tamsin Outhwaite, donc, qu'on peut voir dans deux séries. La même soirée sur Série Club, mercredi prochain. Tout d'abord dans Hôtel Babylone, qui avait été déjà diffusé sur Paris Première, me semble-t-il, hein, où elle est patronne d'un super palace à Londres. Et bon, ça raconte un petit peu les dessous de la vie d'un palace, avec les employés, la patronne, tout le bordel, et les invités, les clients. Avec comme ça se passe dans les palaces et tout, quand c'est un groupe de rock qui débarque et tout, ils saccagent tout, enfin bon, il faut toujours trouver des solutions. C'est pas mal, c'est assez rigolo, ça vaut le coup, surtout parce que c'est en version multilingue, donc on peut se taper la version originale. Mais par contre, c'est déjà les épisodes 5 à 7. Ensuite, un petit épisode de Blue Murder mercredi prochain, de la saison 2, polar un petit peu sympathique canadien, où on découvre un certain Jeremy Ratchford. Plus maigre qu'il ne l'est actuellement la série avec la blonde là qui les affaires classées là.
Ah oui, The Closer.
Cold Case. Jeremy Ratchford, c'est le petit gros là qui est toujours en duo avec l'autre Black, quoi, tu sais. Et bon, là, visiblement, il a des années en moins et il est un petit peu moins gros, quoi, tu vois. Et c'est suivi à 0h15 de Red Cap, police militaire, encore avec Tamsin Outhwaite. Où là, t'en vois vachement plus quand même que dans Hôtel Babylone à un moment donné. Parce que bon, il y a deux ou trois scènes bien torrides, on va dire. Red Cap qui raconte l'histoire de la police militaire britannique, donc dont Tamsin Outhwaite est l'un des membres. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que déjà les histoires scénaristiquement sont bien torchées, c'est toujours des enquêtes bien sûr, mais par contre c'est l'endroit où ça se passe, parce que la majeure partie des épisodes se passe dans les bases militaires anglaises, mais pas sur le sol anglais. La majeure partie des épisodes sont situés en Allemagne, hein, parce qu'il y a encore des bases militaires anglaises, quand même en Allemagne. Et on va même jusqu'en Bosnie pour traquer du criminel de guerre. C'est pas mal, ça se laisse bien regarder quand
c'est
même.
C'est plutôt bien mis en scène. Et
c'est bien foutu. Hein.
Pour une série dans laquelle l'armée anglaise, de toute façon, il met les moyens pour qu'il y ait un bon rendu et tout ça. Fois, c'est critique. C'est étonnamment critique.
Hein. Oui, justement, c'est très critique, hein, parce que
ça. Je l'ai vu sur Bib Prime,
ça montre un petit peu tout ce qui peut se passer, hein. C'est-à-dire que t'as l'impression que dans l'armée c'est tout et rose, les mecs et tout, ils sont droits comme ça, ils obéissent aux ordres et tout. Mais derrière et tout, il y a même une histoire de plantation de ganja dans une caserne, des trucs pas possibles. Enfin bon, c'est bien foutu quand même, quoi. Ça se laisse vraiment bien regarder. Et d'ailleurs, si vous préférez le regarder en première partie de soirée, c'est le mardi soir, hein, sur Série Club à 20h40, qu'il y a trois épisodes de Red Cap Police Militaire avec la charmante Tamsin Outhwaite. C'est le retour del Precio Justo. C'est le retour à partir de lundi sur TF1 à 19h05, lundi au vendredi, hein, le juste prix. créé en 1956, la version américaine du moins, qui est présentée en ce moment par un certain Drew Carey. Alors là, ça doit quand même valoir le coup, parce que bon, il faut se rappeler quand même le Drew Carey Show, hein, espèce de soap qui a duré 4 ou 5 saisons, et qui était quand même vachement bien délirant. Ça a été lancé en 87 en France, et ça a été abandonné un petit peu après 2001-2002.
Parce qu'en fait, au début, c'était est-ce que c'était Patrick Roy?
Non. Ah. Le premier présentateur du Juste Prix, Max Meynier. Les routiers sont sympas. Et ensuite, il y a eu l'intermède Eric Galliano qui n'a pas duré longtemps. Et ensuite, ça a été Patrick Roy. Mais quand on sait le destin cruel qui s'est acharné sur lui, oh le pauvre. C'est Philippe 500, Risoli, c'est la clarinette, qui l'a repris.
C'est plus.
Donc on en reste nous surtout avec avec Philippe Risoli quoi en fait. Hein,
Et le micro qui lance, qui
voilà, voilà. Donc alors la différence. Et là bah on va se taper la gaffe hein, quand même. C'est la gaffe qui reprend le Juste Prix avec. Avec comme producteur Hervé Huber, hein, qui était déjà son producteur sur le Big Deal. Par contre, les épreuves ne changent pas. Il y a toujours la tyrolienne, tous les trucs, enfin habituels, hein, de toute façon. Mais par contre, la nouveauté, c'est qu'on peut gagner un peu plus, car il y a une vitrine par jour.
Ah oui, avant c'était la vitrine par semaine.
Une vitrine par semaine. Là, c'est une vitrine par jour, donc c'est déjà plus intéressant, tu vois.
Ouais, tu fous tourner manège, toi.
Ah ouais. Non mais laisse tomber.
À cause de la roue finale, tu sais, avec le truc.
On change la roue finale. On change radicalement de sujet avec.
Non, Juste Prix.
Cette magnifique série qui s'appelle Suite Noire sur France 2 tous les dimanches après Urgence. Là, c'est à 22h50 demain soir, et c'est un téléfilm qui s'appelle Quand la ville dort. Rien à voir avec le polar, le magnifique polar des années 40. Hein. Donc c'est réalisé par Dominique Cabrera avec Aïssa Maïga. Ça raconte les histoires d'une blaquette immigrée sans papier dans les rues d'une ville et tout. Comment elle peut se faire accueillir. Enfin bref quoi, bon c'est si c'est dans la lignée des précédents Suite Noire, ça vaut relativement le coup de toute façon. C'est vraiment très très bien foutu, hein. C'est du téléfilm à la française, mais c'est bien, c'est carré, c'est efficace et tout, c'est nickel, il y a pas de superflu. Ça va droit à l'essentiel, c'est bien foutu. Il trouve des réalisateurs relativement chevronnés, de toute façon, que ce soit en télé ou voire des fois au cinéma. Hein, Cabrera a déjà fait un ou deux films au cinéma, me semble-t-il. Donc c'est toujours très très bien, quoi. Les deux premiers, de toute façon, Suite Noire, les deux premières Suite Noire étaient impeccables. Donc celle-là, en principe, ça devrait le faire. C'est demain soir sur France 2 à 22h50. Il y a une série dont on parle pas. Et pour cause, et là c'est le coup de gueule que je pousse comme d'habitude à l'encontre de TF1 en ce qui concerne leur programmation et leur gâchis des fois de séries qui pourraient être montrées à un plus grand public. C'est une série qui passe le dimanche soir à 0h45, donc après t'as le film du dimanche soir, après t'as 2-3 épisodes des experts, après tu vas te coucher quoi.
Oui.
Mais après, compte à rebours. C'est une série espagnole, et qui est une série policière d'ailleurs, et assez récente, et qui vaut le coup d'être regardée et tout, quoi. Comme personnage principal, bon, on a pris un type qui avait gagné l'équivalent de la Nouvelle Star ou de, je sais pas, qui s'appelle Operación Triunfo en Espagne, Tony Martin, et donc qui a fait une ou deux chansons et tout, qui est la coqueluche des jeunes et tout. Et après, ben, on l'a dit, ok, on va le faire tourner à la télé, dans des séries et tout. Il a fait une première série un petit peu à l'eau de rose et tout, qui a pas trop marché et tout, enfin bon, et cette série, mais alors là, qui est vraiment polar pur et dur, hein, c'est du rentre-dedans. C'est filmé un petit peu avec une lumière qui me rappelle un petit peu la lumière qui est utilisée dans The Shield, hein, c'est-à-dire c'est on est en Espagne, c'est dans le sud, il y a du soleil,
c'est assez dur.
Filtre ocre quand ils le font, enfin tu vois un petit peu aussi c'est Miami quoi, tu vois un petit peu l'ambiance. Par contre beaucoup d'utilisation de caméra à l'épaule et tout, le filmage un peu saccadé comme ça et tout, ça le fait vraiment très très bien, hein, c'est nickel. Et bon bah les histoires se tiennent quand même vachement bien. Bon bah ok, c'est programmé comme ça, en bouche-trou vers 1h du mat le dimanche soir et tout, quand personne pratiquement ne va regarder ça. Pourtant ça vaut quand même le coup, hein. Compte à rebours, donc c'est sur TF1 après les épisodes des experts du dimanche soir, donc à 0h45 demain. Un petit caméo qui est très sympathique, hein, c'est bien qu'ils rediffusent ça assez rapidement, c'est dans la série Mon Oncle Charlie, Two and a Half Men. Bon, dans la saison 4, il y a un épisode qui s'appelle Sexe, Alcool et Jeux de Hasard, hein, qui passe demain soir sur Comédie aux alentours de 22h avec comme guest star Steven Tyler. Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith.
Et qui, le papa de Liv.
Hein?
Le papa de Liv.
Papa de Liv, bien entendu, et peut-être de beaucoup d'autres. et qui, là, joue le rôle d'un type. Alors, c'est bien parce que tu le vois pas au début, tu le vois à la fin, et puis, il fait juste l'apparition à la fin de l'épisode. Mais bon, il est mentionné parce qu'il joue son propre rôle, et en fait, c'est le nouveau voisin de Charlie Sheen, hein, dans, ce mec qui vient s'installer dans la maison d'à côté et tout, quoi. Et puis, bon, il se fait, en fait, ce qui arrive et tout, quoi, c'est que Steven Tyler et tout, casse la gueule à Charlie Sheen, qui passe tout l'épisode avec la mineure, avec des bandages, avec des marques de bleu et tout ça, quoi. Mais bon, c'est comme d'habitude, de toute façon, quoi. C'est quand même remarquable dans cette série, c'est qu'ils en sont à la saison 4, et l'intérêt et le ressort comique.
Le gamin grandit.
Oui, le gamin grandit, bien sûr, hein, et grossit également vachement.
Oui, d'ailleurs.
C'est flagrant, hein, entre la première saison et la saison 4, là, c'est flagrant, mais énorme. Enfin, il a déjà commencé à grossir lors de la saison 2, quoi. Mais bon, la saison 1, il est encore relativement normal, on va dire. Il est pas vraiment obèse là dans la saison 4. Bon, ok, quoi. Mais au niveau des ressorts comiques et tout, on garde toujours la même chose, le même noyau, mais ça fonctionne toujours. C'est ça qui est impeccable, hein, dans Mon Oncle Charlie. Donc demain soir, c'est aux alentours de 22h cet épisode avec Steven Tyler. Sinon, encore du gros rock qui tâche dans une série, c'est dans Ugly Betty, lundi à 22h35, donc dans les épisodes qu'on n'a pas vus de la saison 2, l'épisode 13 de cette saison qui est encore 18, leçon de drag avec Gene Simmons qui joue son propre rôle. Ouais, comme Steven Tyler d'ailleurs. Sinon, encore des caméos dans CSI Manhattan vendredi prochain à 20h45, mais c'est un épisode qu'on a déjà vu, mais il est bien, avec Edward Furlong, Machination Infernale, 20h45 donc, dans CSI Manhattan, avec bien entendu Mac Taylor. Voilà, c'est tout pour les séries, comme j'ai foutu un petit peu le bordel, quoi, tu vois, quoi. Vite fait, ce soir, il y a que du bon, il y a que du film estampillé oscarisable, genre, tu vois, film qui devrait avoir un prix ou qui a reçu un prix.
Oui, série A, quoi.
Ah ouais, à fond, quoi. France 3 ce soir, 23h55, Duel de Spielberg. Le film télé, au départ, ils sont dit, on va quand même le projeter en salle, on sait jamais.
J'ai fait découvrir Duel, enfin une partie, on est tombé dessus en cours avec Sabrina, mais la VF est horrible.
Il faut le voir en VO, et en plus scénario de Richard Matheson.
Et puis c'est pas franchement pour ce qu'il y a vraiment dans les dialogues d'ailleurs.
Parce qu'il
y a une histoire d'ambiance dedans, oui. qui casse, quoi. Oui, quand ça
arrive, il y a des grands moments de 5 minutes sans dialogue, et quand le dialogue arrive, pof,
le soufflet retombe. Sur TCM ce soir, deux super films à 20h45, Amarcord de Fellini en 74. Avec Magali Noël, Bruno Zanin et beaucoup d'autres, hein, magnifique film. Chinatown, ensuite, après Amarcord de Polanski, hein, deux super films de l'année 74, tu vois, avec Jack Nicholson, Faye Dunaway,
avec le nez coupé,
John Huston, entaillé.
Oui.
et sur Cinépolar, eh ben, c'est le retour et tout. Et puis j'ai ramené le disque, alors il n'y a pas de problème, hein, vas-y, play Misty for me. Le premier Clint Eastwood qui repasse ce soir à 23h05 avec Jessica Walters, Donna Mills. Vas-y, play Missy for me.
Parce que j'ai
le 4.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu lui dis, attends, il faut passer ce CD là, et puis entre temps, il s'endort pendant 20 minutes et ah tiens, c'est là.
Non, c'est parce que je suis en train de programmer plein de trucs à la fois et je peux pas. Si on avait 4 lecteurs CD. Ah merde, ben on les a. Thank you.
demain soir dans le ciné-club de France 3. Très tard le soir, à 1h du matin, mais ça vaut le coup. Hein. C'est Les Mondes Futurs, un film de William Cameron Menzies de 1936 avec Raymond Massé et Ralph Richardson. Hein,
C'est le truc anglais ?
Ouais, c'est anglais. Ouais,
ouais. Ouais, celui où scénario. Ça commence, où ils ont détruit toute l'Angleterre.
Voilà, ils détruisent.
Ouais, il était passé sur Cinéfix il y a pas longtemps. Il y a 6 mois. Ouais.
Ouais, il y a pas longtemps.
Très très bon. Très très bon, honnêtement, vaut le coup d'œil. Et les allusions à la Seconde Guerre mondiale qui vont arriver et le côté est-ce que la science va sauver l'humanité.
Voilà, non mais c'est, et puis en plus c'est mal, la vision que peuvent avoir les gens à l'époque de ce que va être le futur. Hein, comment ils imaginaient, ils idéalisaient le futur, le progrès technologique, les progrès technologiques et tout ça. Ok, quoi. Un petit peu comme nous, on regarde Gene Roddenberry et Star Trek et on dit, bon, ok, le futur, ça va ressembler à ça. Là, c'est H.G. Wells au scénario de ce film, hein, donc, qui imagine comment sera la ville qui a été rayée, enfin, la ville, tout le truc qui a été rayé de la carte et tout, mais seulement 30 ans plus tard, quoi. Donc, c'est Les Mondes Futurs, c'est demain soir sur France 3. Mais vachement tard, à 1h du matin.
Si ça vaut le coup d'être enregistré pour d'abord parce que c'était l'époque où les Anglais étaient très forts en mise en scène. Hein,
mais William Cameron Menzies fait partie de cette génération de cinéastes anglais qui sont passés à l'as, qui sont restés surtout en Angleterre, ont voulu profiter la production britannique plutôt que de s'exiler, aller à Hollywood et tout.
Et puis il y avait aussi toutes ces séries de films qui étaient faits par les Anglais futuristes avec la question sur est-ce que la science amène quelque chose de vraiment positif à l'homme. Ça c'était avant justement toute la désillusion de la science nucléaire et tout le reste. Ça avait commencé avec Point Neutra qui était une réponse au Métropolis de Fritz Lang. Point Neutra qui avait été programmé à l'époque par Radio FMR, et là on a à peu près justement cette idée là qui est assez forte et qui est très bien mise en scène, et avec différentes époques, différents lieux et vraiment des relations entre les personnages qui sont assez riches. Ça vaut le coup, honnêtement.
Sinon, demain soir, il y a également un excellent téléfilm de Jack Gold qui s'appelle Les Rescapés de Sobibor. Sobibor, un camp de concentration et tout, ça raconte une rébellion donc de prisonniers dans ce camp en 1943.
Okay, c'est terminé, histoire vraie.
Le scénario et le tournage a été supervisé par d'anciens survivants de Sobibor pour ajouter un petit peu à la véracité de l'histoire, et c'est interprété magnifiquement par Alan Arkin, Rutger Hauer. Excellent. Excellent,
du sport. Je voudrais avoir l'instant replay parce que tu as dit d'anciens survivants.
D'anciens survivants de Sobibor, du camp de concentration.
Non, c'est des survivants de ce.
Oui, des survivants. Ouais.
D'anciens pensionnaires.
Voilà.
ça c'est mauvais goût par contre.
Rutger Hauer et Johanna Pakula. Donc le film date de 87. Enfin, c'est un téléfilm. Hein, c'est un truc de télé. Donc, mais c'est vraiment bien, hein, vraiment quoi. C'est Paris Première. Donc à 20h40 demain soir. Sinon, un petit réplicante demain soir sur Ciné-Cinéma Frisson à 20h40. Le Ringolam. Ah ouais. Avec Michael Rooker, avec Catherine Dent, hein, c'est la blonde qui porte l'uniforme dans The Shield, qui est la collègue du Black, quoi, dans The Shield, dans les premières saisons. Michael Rooker, pas de problème. Hein.
C'est le film où il y a Van Damme qui interprète au double rôle.
Voilà, où
Van Damme se lâche.
Ah non, il y a d'autres.
Oui, mais celui-là,
il
est bien, quoi.
Un seul.
Non, celui-là, il est bien, quoi.
Il est bien par rapport aux autres, ouais. Mais moi, j'avais été déçu, quand même.
Alors, demain, sur Cinéma Classique, À tout cœur à Tokyo pour OSS 117. Alors, André Hunebelle a cédé la réalisation à Michel Boiron. C'est en 66, mais c'est toujours Frédéric Stafford, et avec à côté Marina Vladi. Aïe, 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 aïe. Et demain soir, sur Orange Cinémax à 20h40, Les Rois du Désert, Three Kings de David O. Russell avec Clooney, Wahlberg et Ice Cube. Pour ceux qui l'auraient loupé, c'est intéressant. Lundi, sur W9, terrible, un film typique de ce que peut produire le meilleur au niveau personne qui ne fait pratiquement que de la télé, mais le pire au niveau de résultats, Le Métro de l'Angoisse, avec quand même distribution Edward James Olmos, alias Castillo dans Miami Vice, et commandant dans Galactica. Lorraine Bracco, la psychologue de Tony Soprano, et Vincent D'Onofrio, inspecteur Goren dans
qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette galère
dans Le Métro de l'Angoisse. Et en plus, filmé par Félix Henriquez Alcala, qui est pas un nain, parce que c'est un type qu'on voit dans toutes les excellentes séries. Je parlais de Shield avant, je parlais de New York Police Blue, où c'est du réalisateur d'épisodes et tout, mais c'est du réalisateur confirmé, hein. C'est-à-dire, bon, bah, ok, c'est des mecs qui connaissent leur boulot. Et bon, bah, ça aboutit à cette espèce de truc qui sera diffusé lundi sur W9 à 22h30, le métro de l'angoisse. Par contre, mieux sur Ciné
Tu peux me laisser, t'en as un autre, tu vois, de faire des, entre guillemets, des coupures, c'est juste, je remonte la musique, ouais, ça non, fait non, une respiration. Non,
mais pour oublier ce truc, Ciné Cinéma Classique à 20h40, Ordre de tuer, on parlait du cinéma britannique, de Anthony Asquith en 58 avec Eddie Albert, Paul Massey et Lillian Gish.
Et c'est vraiment les débuts de l'ère des polars.
Là, c'est, là, on est en plein dedans, hein, c'est la, les années 50 du cinéma anglais, hein, c'est, ça regorge de petites pépites, hein, c'est vraiment très très intéressant. Ou par contre, vous pouvez faire une soirée James Coburn sur TCM lundi à 20h45, La bataille de Midway de Jack Smith, avec outre James Coburn, Glenn Ford, Charlton Heston, Henry Fonda, ou alors le classique de chez les classiques avec James Coburn, les Peckinpah, ses Croix de Fer, avec également James Mason, c'est diffusé juste après à 23h. Ou le film Baston, que nous on connaissait déjà, la Baston dans les années 70, mon gars, on t'a pas attendu. C'est sur CineFX à 21h, Rollerball de No Woman, Jay Wilson, l'original. Hein,
l'original, mais dans quel montage?
Avec John Houseman et Maud Adams. C'est pas précisé, je suis désolé.
Parce qu'il y a eu au moins 4 montages, donc on a eu que TF1 a diffusé en 3e film, il n'y a pas si longtemps. Il y a 3 ou 4 ans, ils avaient passé l'une des versions longues, parce qu'il y a une version courte que l'on passe avant minuit. Parce qu'elle est trop violente sur les chaînes hertziennes, puisqu'après ils l'avaient repassé, ils avaient passé la version longue qui dure 2h50, ouais, un truc
pas,
comme ça.
J'ai même pas repéré la signalétique.
Mais c'est assez rigolo parce qu'on voit vraiment les sportifs texans et tout le reste, et on essaie de leur apprendre un peu, enfin ils découvrent quel est le monde qui est derrière, le monde des grandes entreprises et tout le reste, et la culture qu'on met dans les ordinateurs et qui à tout moment peuvent tout perdre. Alors, on a perdu le 16e siècle, vous vous rendez compte, c'est une, le 14e siècle, c'est une catastrophe. Ouais, et que j'en ai à foutre. On a perdu toute la culture du 14e, 16e siècle. Ouais, alors. Bon, d'accord, ok. C'est plutôt étonnant. C'est un peu le monde du divertissement qu'on nous prépare.
Allez, télé toujours Adopi. Mardi, avec deux films seulement mardi, dont un bon que j'ai déjà vu un certain nombre de fois, on va dire. Hein, parce que c'est un film qu'il faut de toute façon voir un minimum de 2 fois pour vraiment tout piger. Comme c'est le cas dans pratiquement tous ces films,
Suspect.
C'est mardi donc sur Action à 20h40, Vidéodrome de Cronenberg.
Oh oui.
Avec James Woods, Blondie, enfin bon et d'autres. Mais bon, ok.
Il y avait un épisode de Fringe mercredi dernier qui
était n'arrive même pas à la cheville.
Non, mais il y avait un gros clin d'œil à Vidéodrome. Oui, la main qui sortait.
Ou alors sur Teva à 20h35 mardi prochain, Issue de secours de Dick Mas. Dick Mas qui nous avait fait son premier film excellent, L'Ascenseur, Grand Prix au Festival d'Avoriaz. Ensuite, il nous fait Amsterdam Ned, un petit peu moins bien, mais quand même vachement rigolo. Quoi.
Oui, c'est surtout humoristique.
C'est fun, quoi. Disons, c'est un polar fun, quoi.
C'est un polar avec des accents terrifiants et tout. Mais
comme on a remarqué dans Amsterdam Ned que Dick Mas, qui est hollandais, c'est vachement bien filmé la ville d'Amsterdam, qui est vachement belle quand même. Il récidive en 99 dans Issue de secours. Mais alors là, casting international, William Hurt, Jennifer Tilly et Dennis Leary, pour également une histoire de policière qui se passe dans les rues et sur les canaux d'Amsterdam. C'est sur Teva mardi prochain à 20h35. Mercredi, sur France 2, alors c'est une soirée cinéma, on peut dire, parce que ça va parler de Marilyn avec un documentaire de Patrick Jeudy qui va parler des dernières séances entre Marilyn et son psy. Ouais. Alors ça fait quand même 2 ans, hein, des années 60 jusqu'en 62 quand elle est morte. Et là, bon, on va décortiquer ça avant de nous passer un de ses joyaux, et surtout l'un des joyaux de Billy Wilder, 7 Year Itch. Cette année de réflexion à 22h15 sur France 2 mercredi prochain. Ou sinon sur TMC, bien entendu, encore du Hercule Poirot inédit et toujours filmé par Ashley Pierce. Là, c'est Rendez-vous avec la mort. Et là, David Suchet sera plus ou moins opposé à Tim Curry. Ah ah! Ouh là là
ça
là!
Ça va être
là.
Beau! Bien beau!
Là, c'est plutôt la catégorie Thomas. Mercredi sur AB1, 20h35, City of Fear de Mark Roper avec Gary Daniels. et Carole Campbell. Ouais. Mais on jettera quand même un coup d'œil, même plus qu'un coup d'œil. Mais par contre, il faut prévoir le thé et les petits gâteaux. C'est sur TCM, mercredi prochain à 20h40, le fameux Kagemusha de Akira Kurosawa avec Tatsuya Nakadai, Tsutomu Yamakazi, entre autres, parce que quand tu vois les figurants qu'il y a dans ce film et tout, quoi, c'est le film d'époque et tout.
Moi, tu me dis Yamakazi.
Non, mais le mec s'appelle Tsutomu Yamakazi.
Et c'est, t'es sûr que c'est pas Yamazaki?
Yamazaki, oui, ah, Yamazaki. Oui.
Yamakazi, c'est autre chose.
Oui, non, non, t'as raison.
T'as bien vu.
Sinon, bon, bah, ok, hein, le film, c'est un des grands chefs-d'œuvre de Kurosawa. Et l'un de ses derniers également.
Oui, c'était début des années 80, okay, je crois.
Ouais, ouais, c'est en 80, en 1980, ouais, quoi. Sinon, mercredi prochain sur Polar, à 21h, Ennemi Public, le premier film d'un type qui, 2 ans plus tard, nous ferait Usual Suspects. Bryan Singer, et un peu plus tard nous ferait Superman, et un peu plus tard nous ferait le pilote de Dr House, avec dedans des que des mecs qu'on connaît pas, outre à la part Burt Williams, Ron Marquette, Dina Brooks, mais hein, on jettera quand même un coup d'œil, et ça peut être la soirée intéressante parce qu'après le Bryan Singer Ennemi Public à 21h sur Polar, il y a 20 à 22h25 le très très bon film, justement un petit peu biopic comme Dillinger, mais là c'est Francesco Rosi en 73 pour Lucky Luciano, interprété magistralement par Gian Maria Volonté, et avec à ses côtés Rod Steiger, Edmund O'Brien entre autres. Là c'est vraiment très très bien, hein. Et en plus, bah, on apprend pas mal de choses au niveau de ce qui s'est passé entre les services officiels et la mafia pendant la guerre et à la fin de la guerre, et la mafia a bien aidé les OSS et tout, quoi, à pouvoir avoir des renseignements sur les ports et en Sicile et un petit peu partout. Et là ça décrypte quand même vachement bien le truc, hein. C'est pas mal, quoi. Et bon, Lucky Luciano, c'est quand même un des gangsters de la mafia qui est quand même passé pas mal de fois, hein. Si on l'appelle Lucky, c'est pas pour rien, hein. Son surnom, il est venu parce que pas mal de fois il a échappé divers attentats et divers balles qui n'étaient pas perdues du tout, du tout. Et en plus, Francesco Rosi, là, il fait vraiment un super.
C'était un gangster de New York, si je me souviens bien.
Ouais, au départ, ouais. Mais
ouais, après, il était immigré,
mais comme
il,
non mais comme il n'avait pas la nationalité,
non il y a pas de mafia aux États-Unis,
non, mais comme il n'avait pas la, il n'était pas né là-bas, quoi. Il avait immigré quand il était enfant et donc il n'avait pas pris la nationalité. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie ils ont pu l'expulser en Sicile, quoi. Bon, il termine sa vie en Sicile, bon, mais il se fait assassiner là-bas, mais c'est parce qu'on le fout dehors, quoi. On lui dit ok, on te fout pas en prison et tout, tu nous as rendu service et tout, mais casse-toi, on ne veut plus, quoi. Et c'est là qu'allait prendre le pas d'autres mafias nettement plus dangereuses et tout, mais c'est quand même lui qui est l'un des premiers à introduire la drogue dans le circuit de la mafia et tout, mais à grande échelle, quoi, c'est-à-dire pas des petits trucs, quoi. Donc le Lucky Luciano, c'est mercredi prochain sur Ciné Polar. Sinon on a également La Bataille de la Vallée du Diable sur Orange Ciné Géant. Ça c'est un western relativement traditionnel de Ralph Nelson en 66, parce que Ralph Nelson, 2 ans ou 3 ans après, il allait faire Soldier Blue, qui là était vraiment une diatribe anti-western, anti-impérialisme blanc contre les Indiens, parce que ça raconte l'histoire d'un massacre dans un village indien, mais vu du côté indien, quoi. Alors bon, c'est vraiment très cru, très très dur, les scènes sont très hard dans ce Soldier Blue de Ralph Nelson, qui 2 ans auparavant faisait La Bataille de la Vallée du Diable avec James Garner, le papa de Jennifer, ben oui, Sidney Poitier et Bibi Anderson, qu'on se demande ce qu'une Suédoise vient foutre dans un western, mais bon, okay. Laisse tomber. Jeudi sur France 3, Abyss de James Cameron, version longue, ça vaut le coup quand même, hein.
J'ai pas trop la version longue, parce qu'on voit le...
Enfin, c'est... Ouais, ouais, aussi, ça désamorce.
À la fin,
ça désamorce.
Ouais, ouais. Ouais. RTL9 vous propose Le Justicier d'Acier de Kenneth Johnson, dans la même veine que Kazam avec Shaquille O'Neal, Richard Roundtree, Annabeth Guiche et Jude Nelson. Ou alors TMC, vous faites la soirée Angélique.
Marquise des Anges?
Non, il n'y a pas le premier, mais ça commence avec ce que je crois être le deuxième, 20 à 20h40, Angélique et le Roi de Bernard Beaudry. De toute façon, c'est lui qui a fait toute
c'était
la série.
C'était les pornos de l'époque, hein.
Alors,
les Angéliques.
Avec Jacques Toja, ouais. Samy Frey et Jean Rochefort. Ensuite, suivi à 22h25 de Indomptable Angélique, le retour de Robert Hossein, bien sûr, hein, et on finit avec, à 23h55, celui que j'ai revu dernièrement et je me suis pas fait chier, Angélique et le